95.7 Kick. Saguenay, c'est midi pile.
À midi 44, on le voit sur nos routes, on le voit dans les statistiques année après année également. Il y a davantage de VUS sur les routes de la province. La région n'y fait pas exception. Mais l'organisation Équiterre a fait une étude sur, plus approfondie sur ces camions légers qui sont de plus en plus nombreux sur nos routes. On va aller en parler justement avec Andréanne Brazeau, qui est analyste en mobilité chez Équiterre. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien. Dites-moi, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par camion léger?
Les fameux camions légers chez Équiterre, ou du moins dans le cadre de notre étude, là, c'est les VUS, les véhicules utilitaires sport, les pick-up ou camionnettes en français. Il y a aussi même les multisegments et les minivans, là, les mini-fourgonnettes familiales là, qu'on peut inclure là-dedans aussi.
Et statistiquement, comme je le disais en introduction, on le voit année après année, les statistiques de la SAAC, entre autres pour les matriculations, nous prouvent que ce sont les véhicules les plus populaires année après année.
Oui, effectivement, au Québec, là, depuis 2015, ils vendent plus de camions légers que de voitures. Puis à l'échelle du Canada, là, on en est rendu là, à 4 véhicules neufs vendus sur 5 qui sont des camions légers. Donc, c'est vraiment devenu... ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est généralisé. Hein. On a l'image en tête où ça va être peut-être un homme plus avec un revenu plus élevé. Mais maintenant, les camions légers ont rendu dans tous les groupes de la population, les jeunes, les professionnels, les familles, les gens en ville, les gens en banlieue, les gens en campagne. C'est partout.
J'ai ma petite idée, mais je vous le demande quand même. Qu'est-ce qui explique l'attrait des gens envers ce type de véhicule-là?
En fait, il y a vraiment plusieurs facteurs qui expliquent qu'on en soit rendu ici aujourd'hui. Il y a des règlements qui ont fait en sorte que l'industrie automobile a favorisé la production de plus gros véhicules. Mais outre ça, il y a quand même d'autres éléments. Je trouve ça bien que vous le souligniez. Là, c'est sûr que la publicité joue un très, très grand rôle. Il y a d'ailleurs eu 3 publicités de véhicules juste avant que je parle, ce que j'ai trouvé quand même drôle. Donc la publicité joue un grand rôle. Et pas juste la publicité, mais aussi les tactiques de marketing qui vont être utilisées. Là. Par exemple, c'est le fait d'étaler les paiements sur des très, très longues périodes, des petites sommes sur des longues périodes. Parce qu'on sait quand même, là, les camions légers sont en moyenne 10 000 $ plus chers à l'achat, et c'est sans compter là, tous les autres éléments qui viennent après, l'essence, tout ça. Vraiment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'on en soit là aujourd'hui, mais c'est sûr que la publicité joue un très grand rôle.
Mais d'un autre côté, on se souviendra tous, quand on était jeunes, nos parents avaient des petites voitures, des très, très petites voitures, puis ils réussissaient à entrer 2-3 enfants là-dedans, pour se demander comment ils faisaient. Mais une fois que tu as goûté à l'espace que ça peut te procurer d'avoir un petit VUS ou un plus gros VUS, d'avoir dans certains cas une traction intégrale, je pense aux gens qui font le parc des Laurentides, la 175 ici, tout le monde le fait en hiver au moins une fois là, par année, donc ça nécessite cette espèce de sécurité-là qui est peut-être pas présent aussi dans les plus petits véhicules, non?
Oui, par contre, ce que je dirais à ça, c'est que souvent, en fait, plus notre véhicule est gros, plus on va mettre en danger les autres usagers de la route en cas de collision, tu sais. Par exemple, en fait, ce que ça nous donne, c'est une espèce de course à la grosseur où on va toujours vouloir des plus gros véhicules pour se protéger. Parce que dans les faits, nos hivers sont quand même moins pires que ceux qu'on avait quand on était jeunes, justement. Nos familles sont moins nombreuses aussi. Je comprends toutes ces raisons, puis peut-être qu'il y a quand même une part de la publicité aussi qui est allée nourrir ces perceptions-là. Par contre, là, c'est sûr que quand on regarde aussi les chiffres au niveau des émissions de GES, de la crise climatique, on ne pourra pas à long terme continuer sur cette voie-là qui... Ouais, voilà, je vais m'arrêter ici, mais je pense que...
Chez Équiterre, Mme Brazeau, chez Équiterre, on s'entend, vous êtes pour l'environnement, donc on comprend que les émissions de gaz à effet de serre, c'est votre point de mire principal quand vous faites une étude comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais ces véhicules-là, à travers le temps, ont quand même beaucoup amélioré leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. La consommation d'essence a été diminuée, il y a des systèmes anti-pollution qui n'existaient pas auparavant, qui ont été ajoutés sur ces modèles-là, puis j'oserais même ajouter que de plus en plus de constructeurs offrent des VUS hybrides branchables, puis on se dirige vers l'électrique, ce qui devrait pour vous être une très bonne nouvelle?
D'une part, au niveau de la question d'amélioration de l'efficacité énergétique, c'est réel, c'est vrai. Tous les véhicules sont de plus en plus éco-énergétiques. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que les émissions de GES, des transports individuels, continuent d'augmenter. Pourquoi? Parce que en contrepartie, on va quand même consommer plus d'essence au final et faire des plus grandes distances. Parce que le budget essence va quand même rester le même souvent pour les familles. Puis justement, en fait, cette efficacité énergétique-là va amener les gens à se tourner vers des plus gros véhicules, étant donné que l'essence pour le faire rouler va être moins grand qu'avant. Puis l'autre élément, peux-vous juste me répéter? L'autre élément,
Hybrides branchables et électriques.
Oui, en fait, à partir de là, moi, ce que j'aimerais dire, c'est simplement que quand on peut réduire la taille de son véhicule, il faut le faire. Il faut vraiment le faire quand on pense dans une perspective plus durable parce qu'il y a quand même beaucoup d'impact associé aux gros véhicules. En fait, les VUS électriques sont très, 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 très lourds, sont plus lourds que les VUS normaux, en fait, à cause de la batterie qui est très, très grosse. Fait que ça aussi, ça augmente son poids. Puis en fait, au final, on parle beaucoup de l'état des routes, par exemple, mais le fait d'avoir des gros véhicules de plus en plus pesants, ça abîme nécessairement plus rapidement nos routes aussi. Donc ça ne nous sert pas nécessairement en tant que société. Puis ça, c'est sans... Après ça, on peut aussi parler de tout l'espace de stationnement qui est perdu, puis évidemment du fait que ça risque à long terme aussi d'augmenter la congestion parce que, comme vous le mentionnez, c'est tous les véhicules aussi qui deviennent de plus en plus gros.
Mais si je caricature, et je le dis là, de bonne foi, c'est une caricature, pour vous faire plaisir, je devrais m'occuper de ma famille de deux adultes, deux enfants, vivre dans une Nissan Micra, puis de jamais aller en vacances en dehors du Saguenay parce que si je m'en vais à Montréal, je fais un péché d'écologie?
Non, en fait, je n'irais pas nécessairement... c'est-à-dire, c'est une belle caricature. Mm-hmm. Par contre, en fait, ce qu'on considère, c'est que c'est pas nécessairement aux citoyens, aux citoyennes de porter ce fardeau-là, mais bien au gouvernement qui, eux, doivent faciliter les options durables. Donc, que ce soit en augmentant les programmes de covoiturage ou des choses comme ça. Parce que, tu sais, ce qu'on propose, par exemple, ce serait qu'une famille qui habite à Saguenay pourrait se promener dans une petite Micra, comme vous le dites, mais pourrait emprunter un VUS qui est offert par la ville, par exemple. Si la ville offre 4-5 VUS qu'on peut toutes emprunter de temps en temps, des choses comme ça. Il faut penser outside the box, comme on dit. Il faut penser, pour renouveler notre façon de voir le transport, il faut se détacher de l'idée d'avoir sa propre voiture aussi, probablement. Donc, c'est un gros travail structurel qu'on va devoir faire en tant que société.
Admettez que c'est quand même plus métropolitain, votre idée, que ce qui peut s'appliquer ici. Là. On est 150 000, madame. On ne pourra pas avoir 5 autopartages VUS pour faire le parc. Là. C'est des dizaines de milliers de personnes par fin de semaine qui prennent le parc.
À Montréal, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt de n'avoir aucune voiture du tout. Ouais. Par contre, comme vous le dites, justement, notre approche, elle est vraiment ancrée dans le fait de tenir compte des différents contextes, effectivement. Moi, ce que je dis à ça, c'est plutôt à l'administration des villes de cette région-là de s'attaquer à cette problématique-là plutôt qu'aux citoyens qui vont bien sûr prendre ce qui est disponible et à leur disposition. Puis justement, ça passe aussi par la publicité qui doit envoyer un autre narratif que celui qui est véhiculé présentement là.
Mais je vais prendre un pari avec vous, là. On parle de 2035 comme étant la date limite au Québec, au Canada, pour les concessionnaires pour vendre des véhicules à essence. Après ça, ce sera interdit. Je pense que ça va aller plus vite que ça. J'ai l'impression que ça va aller plus rapidement que ça. Le marché veut l'électrique. Quoique là, selon votre discours, je comprends que même si c'est électrique, ça ne fait pas votre affaire non plus parce que ça va être des véhicules sur la route,
plus
la congestion, plus pesant, l'usure des routes.
Bien, évidemment, il faut réduire le nombre de véhicules sur nos routes, ça c'est clair. Il faut cesser l'étalement urbain. Il va falloir repenser notre façon de faire des transports au Québec, ça c'est clair. Par contre, au niveau de la date, je l'espère amplement, je l'espère. Il faut se défaire de notre dépendance au pétrole aussi le plus rapidement possible. Fait que si c'est 2030, ça serait très satisfaisant.
Madame Brazeau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Andréane Brazeau, qui est analyste en mobilité chez Équitaire, mais c'est quelque chose qui est ressorti, qui a déjà été mentionné à quelques reprises, peut-être pas très fort, mais que on peut pas, dans la transition vers l'électrique, il y a des groupes qui disent qu'on peut pas remplacer un véhicule à essence pour un véhicule électrique, parce qu'on va se retrouver avec d'autres problèmes aussi.
Ben,
C'est...
La solution parfaite n'existe pas et j'ai toujours peur des solutions radicales. Je ne dis pas qu'équitaires sont des radicaux, au contraire, mais ils ont une orientation bien précise. Que parfois, je me dis, bon, est-ce qu'ils croient toujours l'eau qu'ils boivent? Il faut bien comprendre une chose. Quand on nous véhicule, hein, c'est le cas de le dire, qu'il y a de plus en plus de chars sur les routes. Voulez-vous savoir pourquoi il y a de plus en plus de chars sur les routes? Parce qu'en 1980, j'ai les chiffres en un de moi. Là. Moi, je suis né en 1981, là, je l'ai. On était 6,5 millions Québécois. On était 6,5 millions de Québécois. Puis aujourd'hui, on est 8,5 millions de Québécois. Il y a 2 millions plus de Québécois qu'il y a 40 ans. C'est pour ça qu'il y a plus de... C'est pas parce qu'on est plus drogués au char. Ça reste que...
Ouais, mais dans une région comme la nôtre, il y a moins de monde.
Il y a moins de monde.
Puis il y a plus de char.
Mais il y a...
Avant ça, moi, ce que je t'ajouterais, par contre, à ton affaire, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui avaient une personne sur deux qui travaillait seulement. Là, maintenant, la deuxième personne travaille, mais généralement la femme.
Mais vu qu'elle travaille, ça y prend
un véhicule de plus. Le problème, c'est le deuxième véhicule, souvent. Puis le troisième véhicule, quand les enfants commencent à conduire, t'envoies des cours avec quatre véhicules. Mais sais-tu quoi? Dans un monde idéal, là, j'en aurais rien qu'un véhicule. Dans un monde idéal.
Mm-hmm.
Tu sais, juste par économie d'essence, ma blonde a changé de job récemment. Fait que le char reste dans la cour. Là. Une perte totale. Là. On est en train d'analyser la situation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Mais juste en économie d'essence, c'est frappant, un char qui reste dans le cours. Imagine, assurance, immatriculation, les termes par mois quand il n'est pas déjà payé. C'est pas pour le plaisir quand tu as un deuxième véhicule.
Non. Dans une région comme Saguenay, puis on entendait un peu plus tôt des candidats à mairie dire qu'on est deux fois et demi en superficie plus gros que l'île de Montréal. Tout se fait... Moi, je me suis souvent posé la question les dernières années. On a deux véhicules. Moi, j'en ai un, ma femme en a un. Des véhicules très modestes, corrects. Est-ce qu'on pourrait tout faire cette job-là à un véhicule? Ça se ferait, mais on serait tout le temps dans le chemin. Puis il y a des fois, je devrais rester à la job jusqu'à 5h30, 6h, parce que c'est moi qui ai le char ou que c'est ma blonde qui l'a. Tu sais, il y aurait tout un désagrément qui vient avec ça aussi.
Cette situation est très, très personnelle. Là.
Ben, on est dans une situation où on est dans un paysage aussi très, très, très régional, très, 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 tout sauf urbain. Par contre, je ne suis pas totalement con parce que je l'ai vu que c'est possible. Mes
par
amis.
Texto, ça, c'est bon. Un auditeur qui dit « Ouais, c'est bien beau, nos parents qui avaient des petites voitures, mais les règles pour les sièges d'auto ont changé aussi, puis les sièges d'auto pour les enfants prennent de la place, puis il faut qu'ils aient jusqu'à 9 ans, ça rentre plus dans des petits véhicules. »
Ben, il y a un peu de tout ça.
Tout
on peut-tu aller contre le progrès difficilement? Moi, je me souviens très bien qu'on allait en Pontiac Tempest 91 à Old Orchard avec mes parents, on était quatre dans le char, puis je fais la même trail au même hôtel maintenant avec un VUS bien ordinaire. Puis, je vous dis, je ne retournerai pas au petit char de mes parents pour faire plaisir et
équitaire. En termes d'espace, juste pour les bagages.
Les bagages, les poussettes.
Les poussettes sont rendues énormes. C'est du progrès aussi.
Vous souvenez-vous aussi, il y a 20 ans, quand vous jouiez au hockey mineur, qui c'est qui charriait tout le monde? C'était celui qui avait la minivan ou le pick-up. Bon, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité. Il y a une réalité aussi.
Par contre, si tu veux aller voir ta famille avec ta famille en Beauce, es-tu capable d'avoir un petit véhicule?
Ben, ma blonde a une Corolla. On est descendu en Beauce la semaine passée avec le Corolla. Ça se fait. Mais on ne peut pas le faire dans le temps des fêtes.
Faut pas que tu restes trop longtemps.
Puis on ne peut pas rester une semaine non plus.
Pas d'espace.
Faut pas avoir de cadeaux dans le char. Tu sais, je te parle de quatre personnes, d'attitude. Ça finit là.
Si chacun son accès. Si tu veux partir en autobus intercar, si tu n'as tout simplement pas de véhicule, ça devient bien embêtant.
Pars en camping avec ton petit char avec la famille, t'es mort. Oublie ça. Là. Je veux dire, c'est pour ça que. Mais je veux amener un contrepoids à ça. Puis je tiens à le dire et à le redire. Moi, j'ai vécu pendant quatre jours chez des amis à Vancouver qui m'hébergeaient, qui n'avaient plus de char. Des personnes qui viennent de la Beauce comme moi, qui ont deux adultes, deux enfants, puis qui ont vendu le char avant d'arriver à Vancouver. Et ils n'en ont plus de besoin. Ils ont des services d'éco-partage, de véhicules partagés qui s'appellent Evo. J'en ai déjà parlé en ondes. C'est fou comme braque comment c'est efficace. C'est fou comme braque. Il n'y a pas d'équivalent comme ça ici encore. Ça va venir, mais écoute, ça a un prix. Là. Et je te le dis, c'est qu'il flotte, il inonde la ville de Vancouver avec des centaines de chars, des Prius. Il en met partout, tu t'abonnes au service. Puis avec ton cell, il y a une application qui te dit « T'as besoin d'un char de Evo, là? » Bon, ben le premier char, pas loin, mettons, nous on est au 345 des Saguenayens, pas loin de Place du Royaume, ben il y a un de nos chars de compagnie, là, il est dans le stationnement du Coco Fruity. Si t'es capable de marcher 100 mètres, là, va-t'en là, réserve-les, poigne-les. Fais ta run de char que tu as besoin pour aller au travail. Mon ami travaille pour Radio-Canada. Je te donne un exemple. Là. Il habite à Vancouver-Est. Le matin, il se lève. Puis quand il peut faire la job en vélo, il va. Il faut comprendre que c'est pas le même climat qu'ici. C'est une autre affaire. S'il peut y aller en vélo, il va en vélo. Puis les journées qui fait tempête un peu, tempête là-bas, c'est moins 5 en passant. Là. Mais il fait fret. Il check son sel. Ah, il y a un char, il vaut deux rues plus loin. Il a déjà son membership, mettons 40 pièces par année. Il marche, il réserve en marchant. Arrivé là-bas, il colle son sel sur la serrure. La serrure débarre automatique. Il s'assoit, bouton poussoir, déloqué par le sel qui est proche. Il s'en va à Radio-Canada. Il fait sa journée de travail. Puis s'il fait beau, il revient à pied ou en baissé. Il laisse le char là et il n'a pas besoin de ramener le char. Et ça, à ce moment-là...
C'est le Bixi, là.
Ouais, mais t'as même pas besoin d'y remettre d'installation.
C'est pas de borne, c'est ça.
T'y laisses où ils sont en respectant le cadre de « tu restes dans Vancouver ». Puis il y a tellement de chars qui fait que, statistiquement parlant, là, c'est sûr que tu vas en trouver un pas loin. Et ça, mon homme, ça, je te dis que je suis critique envers certains propos un peu des fois intégristes, quasiment d'équitaires, et je dis parfois un peu intégristes, mais dans des grosses agglomérations... très densifié. Et il faut que ça soit densifié avec une offre de service valable. Ça se fait, mais ça se fait pas en région. Faut départager les villes et les régions, ce que certains mouvements comme Équitaire ne font visiblement pas.
Ah non. Puis,
mais c'est possible en ville.
Moi, le bout qui m'inquiète un peu, c'est qu'on pensait que la situation pour améliorer l'environnement, c'était de migrer vers les autos électriques. Mais là,
ça fera jamais leurs affaires.
Ils veulent même plus de choses.
Mais ça, c'est Simon, c'est une chose
qu'il
faut analyser
comme discours. C'est la création de matériel, de recréer un char qui, lui aussi, va peut-être pendant un certain temps, quand il y aura encore des autos électriques, embourber encore les routes, particulièrement à Montréal, refaire des bouchons. Donc, les chars à gaz qui restent vont continuer à polluer à cause de toi parce que toi, tu as décidé de faire un move électrique et non pas de ne plus avoir de véhicule. Ouf. J'ai mal en tête, moi. Par texto, je possède la solution. Ça s'appelle la téléportation.